Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Bienvenue dans les interviews du vendredi, je suis Virginie Giraud. Marie Delattre n'a que 13 ans quand elle découvre sa véritable identité. Son père lui révèle que ses grands-parents ont été tués dans les camps de la mort à Auschwitz. Ils s'appelaient Frida et Ismaac Kogan, ils étaient juifs. Avant d'être déportés, ils ont confié leur fils, le père de Marie, alors âgé de 6 ans, à un couple d'amis, Madeleine et Pierre Delattre. Pendant 20 ans, ce sont les seules informations que Marie possède sur ce passé douloureux, tu par son père. Il lui fait promettre de ne pas en parler. Mais après son décès, sa mère lui donne une enveloppe avec des lettres clandestines. Marie décide alors d'enquêter pour découvrir ce que cache son passé familial. Elle raconte sa quête dans son roman La Promesse, qui reparaît aux éditions Pocket. J'ai moi-même été très touchée par ce récit passionnant où la petite histoire se mêle à la grande et je vous recommande vivement de le lire. Bonjour Marie Delattre.
Bonjour.
Merci de venir partager votre histoire avec nous. Alors justement, dans ce roman où vous racontez cette histoire familiale, vous parlez du mutisme de votre père qui finalement parle peu de cette enfance de parents déportés. Et pourtant, après son décès, vous avez voulu écrire ce livre, comme vous le dites, pour vous délester et en alléger vos filles. Qu'est-ce qui explique la différence de posture entre vous et votre père ?
Mon père était un survivant. Donc je pense que lui, pour survivre à cet événement, a dû le cacher. Et puis quand il a perdu ses parents, en fait, on lui a quand même expliqué que s'il voulait survivre, la seule manière d'y arriver était de cacher son identité, de changer de nom, de changer de religion. Donc effectivement, c'est devenu, dès sa plus petite enfance, un secret. Et puis après, ses parents ne sont pas revenus et je pense qu'effectivement, il est resté dans la terreur que ça allait recommencer. Enfin, en tout cas, que ça pouvait recommencer. Et il nous a pas du tout parlé de tout ça, justement pour... Je pense qu'il y avait quelque chose, c'est lui qui se disait, moins ils en savent, moins ils en parleront.
Mais du coup, voilà. Ce silence s'est transformé en poids. Vous avez eu peur que ce soit un poids pour vos filles aussi ?
Ah oui. En fait, quand j'ai eu ma première fille... Moi, c'était une histoire qui était extrêmement présente pour moi. Je faisais beaucoup de rêves autour de ça. Enfin, j'étais très habitée par cette histoire et c'était limite un peu obsessionnel. Et c'était déjà une vieille histoire. Et donc, je me suis dit, en fait, je ne veux pas transmettre à mes enfants le poids de cette histoire qui, quand elles seront adultes, parce que j'ai des filles, c'est une histoire qui aura un siècle. Et donc, elles peuvent pas vivre avec un poids et quelque chose qui les entrave, alors que quand même, c'est une histoire qui leur appartient absolument pas.
Votre père n'en parlait pas, mais vous avez écrit dans votre livre qu'il laisse des indices à la maison. De quoi il s'agit ? Comment vous les trouvez ?
Alors, je fouillais beaucoup.
Petite fille curieuse.
Voilà, je fouillais beaucoup. En fait, je me doutais bien quand même qu'il cachait quelque chose. C'était très diffus comme ça, mais les secrets, c'est en fait... Les enfants savent tout, ils ne le savent pas d'une manière... j'étais incapable de dire ce que c'était, mais je savais qu'on me cachait quelque chose, que mon père me cachait quelque chose, c'était certain. Et donc je fouillais beaucoup, je jouais au détective. Et donc, voilà, une fois j'ai fouillé un tiroir et j'ai trouvé son étoile juive. Quand on regardait des films et que tout ce qui avait trait à la Seconde Guerre mondiale et aux nazis, il mettait dans un état de stress quand même intense. Et donc je me disais bien...
Donc ça se traduit physiquement, il est pas bien...
Voilà, exactement. Oui. Il était stressé, il avait comme ça des mouvements de balancier, une forme d'irritabilité. Enfin, je sentais qu'il était très mal avec ça. Et donc, je me disais quand même, si moi je supporte ces images, pourquoi lui n'y arrive pas ? Et donc, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose en rapport avec ça.
Et vous ressentez quoi, justement, quand vous trouvez cette étoile jaune ? Parce que nous, on les a vues dans les livres, mais quand c'est celle de son père, c'est autre chose.
Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Oui, c'était autre chose. Et en même temps, je pense qu'à l'époque, je savais déjà, il avait déjà dû me dire qu'il était un petit garçon juif... Donc, j'ai été très déçue par l'étoile. C'est-à-dire que j'imaginais, parce que je pense qu'il y avait eu des photos colorisées déjà. On avait dû de ce qu'on voyait à la télévision. C'est-à-dire que j'imaginais une étoile dans un jaune très vif. Mm-hmm. Et en fait, c'est un jaune assez éteint. Donc ça m'avait beaucoup frappée. Et puis, j'avais été paradoxalement surprise de sa texture qui était assez... assez douce.
Voilà. Ah oui, un tissu finalement d'un jaune éteint, doux, passé, un tissu ancien.
Exactement, exactement.
Puis il n'y a pas que ça que vous trouvez. Alors ça, ce n'est pas directement votre famille, c'est votre voisin. Mais on a gardé chez votre voisin carrément un uniforme de déporté rayé qui est mis sous un plastique pour le conserver. Quel effet ça fait d'être confronté à ces documents de l'histoire chez des gens si proches de vous ?
Alors, c'était pas tant d'être confronté à ces documents de l'histoire, c'était surtout de me dire, en fait, chez eux, ça n'est pas du tout traité de la même façon. C'était surtout ça qui m'avait marqué à l'époque. C'est-à-dire que je m'étais dit, bah, eux, le passé a une vraie place, enfin, je me le disais pas aussi bien que ça, mais le passé a une vraie place dans leur histoire présente. Alors que nous, pas du tout. Tout était caché. Et là, je me disais, bah, c'est un uniforme de déporté, il est revenu des camps avec, il l'avait fait nettoyer, c'était sous blister comme sorti du pressing. Et je me suis dit, bah, alors, en fait, là-bas, chez eux, c'est pas tu. Et c'est la porte d'à côté. Donc, c'est plutôt ça qui m'avait beaucoup troublée.
Donc, chez votre père, c'est tu. Néanmoins, il a gardé des espèces de réflexes ou des façons de penser qui évoquent son passé. Par exemple, il a une aversion pour les tatouages et plus précisément pour les tatouages sortis des chewing-gums malabar qu'on peut tous avoir étant enfant.
Ah oui. Alors, les tatouages, c'est vraiment, c'était vraiment quelque chose d'absolument interdit. En fait, tout ce qui marque le corps d'une manière générale. Donc, oui, il y avait ça.
Et puis, il a une obsession aussi, les cachettes.
Alors, oui, la maison était pleine de cachettes. Ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cachettes dans la maison. Donc,
mais concrètement, ça se traduit comment ? Enfin, c'est des placards dans lesquels on peut se cacher ou c'est des objets que l'on cache ?
Non, c'est des objets que l'on cache dans des cachettes qu'il avait lui-même fabriquées ou fait faire. C'est-à-dire, c'était des espèces de planques à l'intérieur des placards où, en fait, on se rendait absolument pas compte. Il fallait passer sa main et puis on sentait que le bois était un peu différent. Donc là, ça se soulevait, c'était une forme de trappe. Il y avait un faux livre complètement creux, là, vous savez, comme dans les films de mafia qu'il y avait dans la bibliothèque. Il y avait un secrétaire fermé à double tour. Il y avait.
Il cache quoi dans ces endroits ?
Bah, je pense qu'il cachait les papiers importants, etc. Mais c'était en fait un réflexe de. Et puis il y avait surtout, et ça c'était, mais je l'ai découvert beaucoup plus tard, adulte, grâce à ma mère, c'est qu'en fait il y avait encore la planche à découper dans laquelle ma mère découpait son gigot du dimanche et qui en fait avait été trafiquée par mon grand-père et dans lequel il planquait les vrais papiers. Pour ne pas être repéré comme étant juif. Alors voilà, ça, on l'avait gardé aussi. Donc c'était effectivement tout un héritage de la cachette, je dirais, des cachettes. Il y avait une alarme aussi, ça, très important, l'alarme, pour effectivement qu'on ne puisse pas entrer chez nous.
Et puis il y a ce jour, vous avez 13 ans, votre père vous invite à déjeuner au restaurant en tête-à-tête, ce qui n'est pas si banal, et il vous fait cette confession. Ses parents à lui ont été déportés. Vous en aviez déjà une conscience confuse ou c'est une révélation ? Comment vous le vivez à ce moment-là du haut de vos 13 ans ?
Alors non, parce que je savais ce que voulait dire être déporté. Parce que j'avais vu Nuit et brouillard à l'école, où on avait déjà parlé de la déportation. C'était quand même la fin des années 80, quand même, on parlait pas mal, donc on parlait beaucoup de la déportation à l'école. Et puis, non. Mais il y a une forme de silence qui se fait à l'intérieur de moi, où en fait, je comprends ce qu'il me dit, mais je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Voilà. Donc, c'est vraiment, je le comprends. Et je me dis, ah oui, alors c'est pas mes vrais grands-parents, mais leur passé tragique, il y a comme un voile qui tombe sur ma pensée et c'est complètement interdit.
Donc ça reste confus, d'autant plus qu'il vous dit qu'il ne faut pas en parler, il vous épelle son nom au lieu de vous le donner, donc il y a une forme de ritualisation autour de ce silence, de ce mystère. Et lorsque votre père meurt, c'est votre mère qui vous donne une enveloppe dans laquelle il y a des documents qui vont vous permettre de retracer votre histoire familiale. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe ?
Il y a en fait toute la correspondance croisée entre mes grands-parents paternels biologiques et mes grands-paternels adoptifs. Voilà. Et donc là, effectivement, ça a été le début de l'enquête. Et donc j'ai fait une enquête pendant 20 ans et j'ai découvert plein de choses.
Est-ce que dans vos recherches, vous avez découvert pourquoi vos grands-parents ont été déportés ?
Oui. Enfin, j'ai découvert comment, plus exactement, parce que pourquoi, ils étaient juifs, mais comment ? Eh bien, c'est une histoire assez tragique aussi et en même temps qui exprime bien cette envie de vivre, je pense, qu'on a tous et qu'on avait a fortiori pendant la guerre, parce que c'est une histoire de dénonciation. Et c'est la nièce de mon père qui donc se cachait avec mes grands-parents, la petite sœur de ma grand-mère paternelle, Eva, qui était la plus insouciante, la plus jeune, la plus jolie, qui avait envie de batifoler, d'être amoureuse. Elle avait 25 ans et qui un jour a rencontré un musicien avec qui elle a eu une histoire. Et le musicien a dû comprendre, ou elle a dû lui dire, enfin je sais pas ce qui s'est passé bien sûr, qu'elle était juive. Et quand il l'a su, eh bien il a donné la famille. Voilà. Et la police française est venue les chercher un matin de novembre et les a emmenés directement à Drancy.
Et de Drancy, ils ont été acheminés vers Auschwitz ?
Oui, mais alors il s'est passé quelque chose d'assez étonnant dans leur parcours d'internés, si je puis dire, à Drancy, parce que normalement, les internés à Drancy restaient assez peu de temps, c'est-à-dire qu'ils restaient 3 jours, une semaine, enfin voilà, puis ils partaient très vite. Et là, en fait, ils sont tombés pendant la période où les déportations... n'avait plus cours parce que je pense tout simplement il y avait un manque de wagons et qu'il fallait les acheminer d'Allemagne. Et donc il y a eu 3 mois où en fait il s'est rien passé. Et donc en fait entre novembre et février, ils sont restés dans le camp. Et c'est pour ça qu'on a autant de lettres. Et voilà.
Et est-ce que les lettres décrivent dans quelles conditions ils ont vécu ces quelques mois à Drancy ?
Oui. Oui, oui. D'ailleurs, c'est des lettres, elles sont toutes maintenant au mémorial de la Shoah, mais alors quand j'en ai hérité, elles étaient toutes dans leur état d'origine, c'est-à-dire pliées sur des tout petits bouts de papier que le temps avait à moitié effacé, très difficile à lire parce que mes grands-parents paternels parlaient mal le français, surtout mon grand-père, donc c'est écrit en phonétique. Donc j'ai fait tout un travail de déchiffrage et ce qui est très frappant, c'est qu'on est passé de lettres amoureuses totalement enflammées, comme tous les amours naissants ou toutes les liaisons, imaginent une vie future, une vie possible ailleurs, un recommencement, à des lettres extrêmement terre à terre, extrêmement où la peur est partout, la faim est partout, où mon grand-père paternel qui envoyait des lettres d'amour à Madeleine d'un coup lui dit il faut que tu tout ce qui compte c'est le poids des colis, pourquoi est-ce que tu as découpé la viande a pourri, il faut que tu, enfin voilà, oui, c'est effectivement très ils sont pleins de poux, ils sont dans une promiscuité terrible, très nombreux par chambrée. Et puis ça explique bien aussi, et ça je remercie vraiment les historiens de Perrin, le cheminement du départ prochain en déportation à l'intérieur du camp de Drancy. Parce qu'en fait Drancy c'est un U, et ils arrivaient à gauche du camp, et petit à petit ils changeaient d'escalier pour arriver jusqu'à la droite, et à droite se trouvaient les autobus qui les emmenaient prendre le train. Et donc, ils étaient dans ce qu'on appelle les escaliers des déportables. Mais moi, au départ, et donc quand on est dans les escaliers des déportables, on n'a plus le droit de sortir à l'intérieur de la cour, on n'a plus le droit de descendre, on reste dans sa chambre pour vite partir, pour vite être emmené. Et donc, au début, moi, je comprenais rien du tout à ça, parce que, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était que ces différents escaliers, pourquoi ils déménageaient dans le camp, pourquoi, voilà. Donc ça, c'est très intéressant, historiquement.
Et vous avez découvert des choses assez étonnantes, parce que moi, en lisant le livre, je m'attendais au départ à une histoire d'une certaine manière, si je puis dire, classique, un couple de juifs amis avec un couple de chrétiens. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, si vous voulez nous en dire un mot.
En fait, c'est comme souvent dans les secrets, c'est que souvent, il y a un secret dans le secret. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un secret dans le secret. Et le secret, c'est une histoire d'amour totalement romanesque, improbable entre effectivement mes grands-parents adoptifs et mes grands-parents biologiques.
C'est un quadrilatère amoureux.
Exactement, exactement. C'est un quadrilatère amoureux totalement interdit, et le secret était vraiment là, je dirais. Je pense que c'était aussi... j'ai mieux compris après pourquoi mon père nous en avait pas parlé, parce que ce quadrilatère, il en avait pas idée.
À lui, il l'ignorait quand il était enfant.
A priori, il l'ignorait. Mais... il devait s'en douter quand même. Et je pense que c'était quelque chose qui était totalement indicible. Et à la génération de mes grands-parents, qui je vois pas comment ils auraient pu expliquer à mon père, tes parents ont pas fui en zone libre parce qu'on était amoureux. Je pense que c'était pas possible, que c'était déjà une histoire adultère, que c'était, enfin bon, c'était quelque chose d'impossible à mettre en mots pour eux.
Et en même temps, est-ce qu'on peut pas se dire qu'il a été aimé peut-être par quatre personnes qui se sont aussi aimées et qu'il y a une forme de beauté là-dedans?
Ah si, si, c'est une très belle histoire. Et c'est une très belle histoire aussi parce que c'est un couple qui n'était pas destiné à en être un, Pierre et Madeleine Delattre, et qui probablement ne l'a pas été au sens amoureux du terme, qui se sont mariés pour élever mon père. Parce qu'ils ont voulu tenir une promesse qu'ils avaient faite à leur amant et maîtresse. Donc, c'est magnifique.
Mais votre histoire, quelque part, elle passe par le nom que votre père vous a donné. Donc, Kogan, qui était votre nom de famille, celui que vous auriez dû porter. Finalement, vous portez le nom de vos parents adoptifs, enfin, de vos grands-parents adoptifs, Delattre. Mais vos prénoms racontent aussi une histoire. Vous écrivez Marie, c'est pour se cacher, c'est passe-partout. Madeleine, c'est le nom de votre grand-mère adoptive. Et Frida, le nom de votre grand-mère juive. Est-ce qu'avec vos filles, vous avez perpétré l'histoire de la famille à travers les noms?
Avec l'aînée. L'aînée a un prénom, s'appelle Clara, et elle a un prénom que je voulais possiblement juif, en fait. Voilà. La plus petite, non, pas du tout. Elle s'appelle Alice, et c'était important pour moi de lui donner, enfin pour moi et mon conjoint, qu'on lui donne un prénom totalement classique français, si je puis dire. Et paradoxalement, c'est elle que j'ai eu le plus de mal à nommer à sa naissance. Et donc, je lui donne toujours beaucoup de surnoms.
Elles savent ce qui se sont passés dans les camps pour vos vrais grands-parents? Comment vous avez trouvé des indices là-dessus?
Oui, oui, elles savent. Mais c'est pas moi qui leur aurais parlé. Moi, c'est vrai que... Et là, j'ai beaucoup mieux compris le silence de mon père et son incapacité à me dire les choses parce que j'arrivais pas à parler de ça à mes enfants.
Donc, c'est pas vous, c'est...
C'est leur grand-mère, c'est ma mère. Voilà. Qui, oui, leur a expliqué.
Donc, finalement, la part du secret, elle s'éteint dans le livre. Est-ce que vous laissez le livre traîner chez vous, comme votre père laissait des indices traîner dans l'appartement?
Ah, ils ont chacun leur exemplaire. Et ça, tout le monde a son exemplaire. Et puis, elles le liront quand elles voudront le lire. Voilà. C'est chacun son rythme. Je pense qu'elles y viendront. Mais quand elles voudront. Ma fille aînée m'a dit non, je veux pas le lire, j'ai pas du tout envie de pleurer. Donc voilà, elle est pas du tout mûre pour ça et la petite commence. Voilà. Le livre de poche d'ailleurs est beaucoup plus accessible pour elle.
Vous avez rétabli la mémoire et finalement détruit le poids du secret.
Voilà, voilà.
Merci beaucoup Marie Delattre, c'était très émouvant de vous avoir au micro d'Au cœur de l'histoire pour parler de votre mémoire familiale qui évoque aussi une histoire tragique de la France à un moment où, voilà, qui est difficile de se remémorer aussi. Donc je rappelle qu'on peut découvrir toute votre histoire, plus précisément dans votre roman La Promesse qui vient de reparaître aux éditions Pocket. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio, à la production Caroline Garnier, à la réalisation Julien Tarot, à la direction artistique Julien Tarot aussi, qui compose également nos musiques originales avec Sébastien Guidis, et à la communication et à la diffusion Marie Corpet et Nathan Laporte. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre plateforme favorite, mais aussi sur l'application Europe 1 et chaque week-end à 15h sur les antennes d'Europe 1. À bientôt.